Lettre 3. À Asa. Son embarquement, sa maladie. Elle est prise par les Français. C'est toi, chère lumière de mes jours, c'est toi qui me rappelles à la vie. Voudrais-je la conserver si je n'étais assurée que la mort aurait moissonné d'un seul coup tes jours et les miens? Je la touchais au moment où l'étincelle du feu divin dont le soleil anime notre être allait s'éteindre. La nature laborieuse se préparait déjà à donner une autre forme à la portion de matière qui lui appartient en moi. Je mourais. Tu perdais pour jamais la moitié de toi-même lorsque mon amour m'a rendu la vie et je t'en fais le sacrifice. Mais comment pourrais-je t'instruire des choses surprenantes qui me sont arrivées? Comment me rappeler des idées déjà confuses au moment où je les ai reçues et que le temps qui s'est écoulé depuis rend encore moins intelligible? À peine, mon cher Asa, avais-je confié à notre fidèle Shaki le dernier tissu de mes pensées, que j'entendis un grand mouvement dans notre habitation. Vers le milieu de la nuit, deux de mes ravisseurs vinrent m'enlever de ma sombre retraite avec autant de violence qu'ils en avaient employé à m'arracher du temple du soleil. Enfin, arrivés apparemment où l'on voulait aller, une nuit, ces barbares me portèrent sur leurs bras dans une maison dont les approches, malgré l'obscurité, me parurent extrêmement difficiles. Je fus placé dans un lieu plus étroit et plus incommode que n'avait jamais été ma première prison. Mais mon cher Asa, pourrais-je te persuader de ce que je ne comprends pas moi-même, si tu n'étais assuré que le mensonge n'a jamais souillé les lèvres d'une enfant du soleil? Cette maison, que j'ai jugée être fort grande par la quantité de monde qu'elle contenait, cette maison, comme suspendue et ne tenant point à la terre, était dans un balancement continuel. Il faudrait, aux lumières de mon esprit, que Tike Virakusha eût comblé mon âme comme la tienne de sa divine science pour pouvoir comprendre ce prodige. Toute la connaissance que j'en ai est que cette demeure n'a pas été construite par un être ami des hommes. Car quelques moments après que j'y fus entré, son mouvement continuel, joint à une odeur malfaisante, me causèrent un mal si violent que je suis étonnée de n'y avoir pas succombé. Ce n'était que le commencement de mes peines. Un temps assez long s'était écoulé. Je ne souffrais presque plus lorsqu'un matin, je fus arraché au sommeil par un bruit plus affreux que celui du Yelport. Notre habitation en recevait des ébranlements tels que la terre en éprouvera lorsque la lune, en tombant, réduira l'univers en poussière. Des cris qui se joignirent à ce fracas le rendaient encore plus épouvantable. Mes sens, saisis d'une horreur secrète, ne portaient à mon âme que l'idée de la destruction de la nature entière. Je croyais le péril universel, je tremblais pour tes jours. Ma frayeur s'accrut enfin jusqu'au dernier excès à la vue d'une troupe d'hommes en fureur, le visage et les habits ensanglantés, qui se jetèrent en tumulte dans ma chambre. Je ne soutins pas cet horrible spectacle, la force et la connaissance m'abandonnèrent. J'ignore encore la suite de ce terrible événement. Revenu à moi-même, je me trouvais dans un lit assez propre, entouré de plusieurs sauvages qui n'étaient plus les cruels Espagnols. Peux-tu te représenter ma surprise en me trouvant dans une demeure nouvelle, parmi des hommes nouveaux, sans pouvoir comprendre comment ce changement avait pu se faire? Je refermai promptement les yeux, afin que, plus recueilli en moi-même, je puisse m'assurer si je vivais ou si mon âme n'avait point abandonné mon corps pour passer dans les régions inconnues. Te l'avouerai-je, chère idole de mon cœur? Fatiguée d'une vie odieuse, rebutée de souffrir des tourments de toute espèce, accablée sous le poids de mon horrible destinée, je regardais avec indifférence la fin de ma vie que je sentais approcher. Je refusais constamment tous les secours que l'on m'offrait. En peu de jours, je touchais au terme fatal et j'y touchais sans regret. L'épuisement des forces anéantit le sentiment. Déjà mon imagination affaiblie ne recevait plus d'images que comme un léger dessin tracé par une main tremblante. Déjà, les objets qui m'avaient le plus affecté n'excitaient en moi que cette sensation vague que nous éprouvons en nous laissant aller à une rêverie indéterminée. Je n'étais presque plus. Cet état, mon cher Asa, n'est pas si fâcheux que l'on croit. De loin, il nous effraie parce que nous y pensons de toutes nos forces. quand il est arrivé, affaibli par les gradations des douleurs qui nous y conduisent, le moment décisif ne paraît que celui du repos. Cependant, j'éprouvais que le penchant naturel qui nous porte à pénétrer dans l'avenir, et même dans celui qui ne sera plus pour nous, semble donner de nouvelles forces. Transporté dans l'intérieur de ton palais, j'y arrivais dans le moment où l'on venait de t'apprendre ma mort. Je te vis, mon cher Asa, pâle, défiguré, privé de sentiments, tel qu'un lys desséché par la brûlante ardeur du midi. L'amour est-il donc quelquefois barbare? Je jouissais de ta douleur. Je l'excitais par de tristes adieux. Je trouvais de la douceur, peut-être du plaisir, à répandre sur tes jours le poison des regrets. Et ce même amour, qui me rendait féroce, déchirait mon cœur par l'horreur de tes peines. Enfin réveillé comme d'un profond sommeil, pénétré de ta propre douleur, tremblante pour ta vie, je demandai des secours et je revis la lumière. Te reverrai-je, toi, cher arbitre de mon existence? Hélas, qui pourra m'en assurer? Je ne sais plus où je suis, peut-être est-ce loin de toi. Mais dussions-nous être séparés par les espaces immenses qu'habitent les enfants du soleil, le nuage léger de mes pensées volera sans cesse autour de toi.